Enfin, à travers le feuillage, le lac scintilla. Enfin apparurent les parois calcaires, plongeant comme des doigts crochus au plus profond de l'eau. Et, par-delà la bouche noire du tunnel, la flèche de l'église, puis un pan de mur du château surgirent soudain. Avidement, Johann Bogdan se penchait par la fenêtre. Il faisait l'inventaire des choses, vérifiant que rien n'avait été pris en son absence. Chaque bouquet d'arbres retrouvé le faisait opiner de la tête. C'était bien ça. Rien ne manquait. Son monde était intact, la réalité en règle. Chaque borne kilométrique au bord de la grande route qui longeait les rails se trouvait à sa place.
Et voilà le hêtre rouge qui faisait peur à mes chevaux et faillit une fois renverser la voiture.
Johann Bogdan respira profondément et prit dans sa poche une petite glace ronde. Avant d'arriver, il regarda son visage pour la dernière fois. On aurait dit qu'à chaque station, sa laideur empirait. Le côté droit pouvait passer, à la rigueur. Il lui restait un petit brin de moustache et la joue était à peu près lisse, jusqu'à la déchirure mal cicatrisée près de la commissure des lèvres. Mais le côté gauche... Qu'est-ce qu'il n'avait pas entendu dire à propos de sa gueule gauche, par cette engeance de la ville qui, guerre ou paix, ne pense qu'à se payer la bobine des paysans? Des verminards, tous. Depuis le majestueux monsieur le professeur jusqu'aux belles madames qui caquetaient dans leurs toilettes blanches. Pas difficile d'en faire à croire à un pauvre cocher, sachant à peine lire et écrire. Après avoir été tout miel et lui avoir promis la lune, on l'avait planté là. Total, il se retrouvait abandonné, perdu dans la vie.
Ah, misère!
Et il jeta son chapeau sur le banc. Non mais, était-ce une tête humaine que celle qu'on lui avait faite? On n'arrange pas un homme comme ça. Le nez rapiécé de petits carrés de toutes les couleurs, la bouche de traviole, la joue gauche boursouflée d'un rouge de viande crue, sabré à U et à Dia de grosses cicatrices. C'était, tout simplement, l'horreur. Plus de pommettes, à la place un long trou, si profond qu'on pouvait y mettre un doigt. Et c'est pour ça qu'il s'était laissé martyriser, qu'il s'était laissé mener 17 fois comme un mouton docile dans cette maudite chambre au mur de verre et toute pleine de couteaux brillants. Il frissonna au souvenir des tortures endurées pour reprendre figure humaine et pouvoir retrouver sa fiancée. Le train sortit en sifflant du tunnel et déjà la boule d'acacia de devant la petite maison du chef de gare accueillait Johann Bogdan. Le visage sombre, il traîna son sac dans le couloir, hésita un instant et descendit les marches. Il resta là, debout, comme attendant une aide, tandis que le train repartait. Il tira de sa poche son beau mouchoir à fleurs et s'essuya le front.
Que faire? Pourquoi diable suis-je revenu?
Maintenant qu'il avait sous ses pieds le sol bien-aimé du pays, il lui venait le désir fou de retourner à l'hôpital qu'il avait quitté le matin même en jubilant. Il revoyait le long couloir peuplé d'hommes enveloppés de pansements, boiteux, paralysés, aveugle, défiguré. Là-bas, personne ne s'était jamais arrêté à son visage déchiré. Au contraire, on l'avait plutôt envié, parce qu'il était encore capable de travailler et qu'il avait gardé ses deux bras, ses deux jambes et un œil. Plus d'un aurait aimé être à sa place, même que certains avaient rouspété sacrément rapport au fait que l'État lui alignait une rente.
Une rente pour un œil perdu? À côté d'une jambe de bois, d'un bras mort, d'un poumon troué, qui ne s'arrête pas de siffler comme une vieille pompe? Qu'est-ce que c'est un œil en moins et une joue pas comme il faut?
Dans cette boîte à malheur, c'était l'huile Vénard. Et même une célébrité. Tout le monde connaissait son histoire. Les nouveaux venus demandaient tous à voir Johann Bogdan, opéré 17 fois, qui s'était fait enlever des bandes de peau sur les cuisses, le dos et la poitrine. Après chaque opération... Quand on défaisait ses pansements, La porte de son dortoir s'entr'ouvrait sans arrêt pour voir la mine de sa nouvelle tête, s'il fallait en rire ou en pleurer. Et ça discutait, ça discutait. Chacun avait sa petite idée, son avis, sa théorie. Ceux qui avaient été hospitalisés en même temps que Bogdan décrivaient avec émerveillement son aspect affreux lorsqu'il était entré. À leur fierté, on aurait dit qu'ils étaient pour quelque chose dans le succès des opérations. Ainsi, petit à petit, Johann Bogdan s'était presque enorgueilli de sa blessure et des progrès de sa tête. Pour dire ce qui est, il avait même eu derrière la tête l'idée de faire sensation au village avec sa tête. À cette heure, c'était une autre paire de manches. Tout seul, avec son sac et sa valise maigre, le village étendu devant lui sous le soleil ardent des plaines de Hongrie, Johann Bogdan sentait le découragement l'envahir et une angoisse comme il n'en avait jamais eu, même sous le sifflement des obus, même dans les corps à corps où l'on étreint la sombre fiancée des premières lignes. Sa mentalité de paysan, pétrie d'orgueil et d'opiniâtreté, ne le portait guère aux affres de l'inquiétude ni aux méandres vaporeux du doute, mais un malaise instinctif, comme s'il sentait une froideur des choses à l'égard de lui, lui soufflait qu'il allait au-devant de déception et d'amertume qu'à l'hôpital il ne soupçonnait pas. Le cœur serré, il jeta son sac sur son dos et d'un pas méfiant se dirigea vers la sortie. À l'ombre des acacias poussiéreux qu'il avait vu grandir, il ressentit soudain ce qu'il fut. Il revit le beau Johann Bogdan, le magnifique cocher de maître que tout le monde connaissait avant. Les opérations, le rafistolage, des nefles s'avalaient. Il n'y avait de vrai que la douloureuse différence entre le gars fringant qui, ici même, le jour de la mobilisation, faisait ses adieux à Marxa d'une voix enrouée par les chansons, et l'infime rapiécé qui revenait, la figure sans dessus-dessous, borgne, meurtri, amer, comme si le malheur l'avait sorti du lit le matin même. La femme du garde-barrière Kovacs, mobilisée depuis le premier jour en Russie, bavardait devant la grille, son poinçon à la main, attendant avec impatience le dernier voyageur. Johann Bogdan sentit le cœur lui battre, son pas se ralentir. Oui ou non, la Julie le reconnaîtrait-elle? Ses genoux étaient en coton et sa main tremblait lorsqu'il tendit son billet. Elle le prit, le laissa passer. Le pauvre Bogdan sentit le souffle lui manquer. Il fit un grand effort, la regarda bien en face avec son œil unique et lui dit d'une voix assurée
« Bonjour. »«
Bonjour. »
Il rencontra ses yeux, les vit s'arrondir, le fixer, chercher un sens à sa figure et puis se détourner comme incapable de supporter sa vue. Il pensa s'arrêter, mais il vit la femme faire le signe de la croix en balbutiant
« Jésus-Marie !»
comme s'il eût été Satan en personne. Il s'éloigna en chancelant.
« Pas reconnu. Pas reconnu. Pas reconnu. »
Il se traîna jusqu'au banc en face de la gare et s'y laissa tomber en jetant ses bagages à terre.
« Pas reconnu. » La Julie n'a pas reconnu Johann Bogdan. Elle, dont la maison natale touche celle de mes parents. Elle qui allait à l'école avec moi et qui, avec moi, a fait sa première communion.
Il l'avait embrassée, Dieu sait combien de fois, avant que Kovacs vint au village et l'épousa.
Elle ne m'a pas reconnu. Même pas à ma voix. J'ai changé à ce point.
Il jeta malgré lui un coup d'œil vers la gare. La femme parlait avec volubilité au chef de gare. Il comprit à ses gestes qu'elle décrivait le soldat étranger qu'elle venait de laisser passer. Il eut une plainte brève, rauque, et la tête penchée, il se mit à gémir comme une fille abandonnée.
Que faire ? Monter au château ? pousser la porte des communs et lancer un bonjour joyeux à la Maxa ébahie.
Oui, il s'était figuré ainsi son retour. Mille fois il se l'était imaginé. Les exclamations des servantes, le cri de joie de la Maxa qui se jetterait à son cou, les questions qui pleuvraient sur lui, tandis qu'il la prendrait sur ses genoux en jetant quelques réponses d'un ton détaché à l'assemblée admirative. Parti, perdu, envolé, le retour joyeux.
Revoir Maxa, moi, avec cette tête accouchée dehors, qui a fait se signer la Julie. C'est qu'elle est réputée pour sa langue bien pendue, la Maxa. Avant de s'amouracher de moi, elle en a envoyé paître aux dégâts. Elle leur lâchait le paquet vite fait.
Il se mordit les poings pour retenir ses sanglots, puis, serrant sa tête entre ses mains, il essaya de réfléchir. Tout lui avait réussi jusqu'alors. Bien vu à l'école, bien vu au château, bien vu même au régiment. Beau garçon éveillé, bon cavalier, cocher habile, aimé de ses chevaux autant qu'il les aimait. Il avait traversé la vie en sifflotant. Quand il passait à toute allure en jetant un baiser aux femmes qui se trouvaient au bord de la route.
Fallait voir le sourire qu'elle me lançait. Avec la Maxa, ça avait été moins vite, hein, vu qu'elle était considérée comme la plus belle fille de la région. En tout cas, c'est moi qui ai emporté le morceau. Et le jour de nos fiançailles, le comte lui-même m'a tapé sur l'épaule, d'un air presque jaloux. Quel beau couple, a dit le curé.
Johann Bogdan chercha en tâtonnant sa petite glace dans sa poche et se re-regarda avec accablement.
C'est ça, ça le fiancé de la belle Maxa, cette tête de singe, ce masque de carnaval raccommodé par un soi-disant célèbre professeur. Qu'a-t-il à voir avec le beau Johann à qui Maxa a promis sa main, à qui elle a dit adieu en pleurant?
Il n'y avait qu'un seul Johann Bogdan pour la Maxa, le sémillant cocher de maître. Le plus beau garçon du village. À propos, était-il encore cocher de maître? Le comte se garderait bien de déparer son splendide équipage avec un tel épouvantail et de faire son entrée en ville avec un monstre de foire sur le siège. On le mettrait à la moisson, on lui ferait nettoyer les écuries. Et la Maxa, la belle Maxa, qui faisait se retourner tous les hommes, pourrait-elle devenir la femme d'un manœuvre? Non. Bogdan le sentait bien. Le pauvre R affalé sur le banc ne serait plus Johann Bogdan pour la Maxa. Elle ne voudrait pas plus de lui comme mari que les maîtres n'en voudraient comme cocher. Un infirme est un infirme. La Maxa s'était fiancée avec Johann Bogdan, non avec le monstre qu'il lui ramenait. Peu à peu, son désespoir se changea en rage froide contre la racaille des villes qui lui avaient fait gober des balivernes.
Soi-disant que Maxa serait fier d'un fiancé défiguré pour la patrie. Fier.
Ses doigts tournaient et retournaient la maudite glace avec tant de fureur qu'il la brisa, se coupant la main. Le sang coula dans sa manche sans qu'il s'en aperçût. Tant était grande sa colère contre les mijaurés de l'hôpital qui lui avaient monté le bourrichon.
Sûr. Il se disait qu'un homme avec un seul œil et une moitié de nez, ça serait assez bon pour une paysanne. La patrie. Est-ce que c'était au bras de la patrie qu'elle irait à l'hôtel? Et quand les autres femmes diraient « la pauvre », est-ce que c'est avec la patrie qu'elle paraderait? Ce n'est pas la patrie qui conduirait le carrosse à travers le village, les rubans du chapeau flottant au vent. Foutaise.
Écroulé sur le banc, regardant fixement le nom de la gare, ce nom qui contenait toute sa vie, ses espoirs et ses souvenirs, il se rappela soudain Pierre, le boiteux, qui habitait la maison en ruine derrière le moulin, lorsque Johann était encore enfant. Il le revit avec sa jambe à la traîne, sa figure creusée et triste, oui. Celui-là aussi avait donné sa jambe pour la patrie, pendant l'occupation de la Bosnie. Et une fois de retour, on l'avait laissé pourrir dans la maison abandonnée, souffre-douleur des gamins qui imitaient sa démarche, victime de la rancune hargneuse des paysans, car il vivait à la charge de la commune.
Au service de la patrie. Est-ce qu'on parlait de la patrie quand Pierre passait? On disait notre pauvre avec mépris, et c'est tout.
Johann Bogdan serrait les mâchoires. Comment à l'hôpital avait-il pu ne pas se souvenir de Pierre le Boiteux? Il leur aurait cloué le bec à ces volatiles lorsqu'ils péroraient sur la patrie et l'honneur de retourner refondu en singe auprès de sa fiancée.
Ah. Si je pouvais tenir monsieur le professeur entre mes pattes. Dire qu'ils se sont amusés à me photographier au moins une douzaine de fois, sous toutes les coutures. Après chaque torture, allez, le petit oiseau va sortir. Comme si chaque tête qu'on me faisait était un tour de force. Voilà que la Julie elle-même ne me reconnaît pas. La Julie, la fille du voisin.
Johann Bogdan était si occupé à sa haine qu'il ne vit même pas qu'un homme, planté devant lui depuis quelques minutes, l'examinait avec curiosité. Mais lorsqu'une voix le tira de sa méditation noire, un flot de sang envahit sa figure et de bonheur son cœur cessa de battre.
C'est toi, Bogdan ?
Il se dressa. On le reconnaissait. C'était Mihaly, le bossu. Pas un homme dans le village à qui Johann Bogdan n'eût serré les deux mains avec une gratitude débordante, mais le bossu. Sûr que ce lamentable tordu était ravi de se trouver enfin un ami, un compagnon d'infirmité.
Oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a ?
Eh ben, mon vieux, ils t'ont joliment arrangé, les Russes.
De quoi tu te mêles ? Tu vas me faire le plaisir de te taire. Si j'étais né avec mon ventre sur le dos, sûr que les Russes ne m'auraient rien fait.
Sans paraître offensé, le bossu s'assit tranquillement à côté de Bogdan.
Je vois que tu es aussi gentil qu'avant, Bogdan. Allez, va. T'en fais pas. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Faut bien que les pauvres donnent leur peau pour que l'ennemi ne prenne pas ce que les riches ont trop. Enfin, être vivant, c'est déjà beau. Faut pas se plaindre.
Est-ce que je me plains ? Tu crois que les balles vont chercher, si on est riche ou pauvre ? Là-bas, il y a des comtes et des barons qui pourrissent au soleil comme de simples charognes. Tous ceux que Dieu a fait bon à quelque chose sont partis, qu'ils soient cousus d'or ou pauvres comme des rats d'église.
Il y en a des comme ça et des comme ça. Ce Bogdan avait toujours eu une nature de larbin, fier de servir les hauts messieurs. Dans le temps, il soutenait les patrons, parce qu'avec sa veste brodée et ses boutons d'argent, il croyait faire partie du gala. Pour défendre leurs biens, il avait donné à bouffer au canon, et maintenant, monstrueux, avec sa gueule sans queue ni tête, ce jobard, n'en continue pas moins de leur donner raison. Vraiment. Discuter avec un crétin pareil, c'est perdre sa salive.
Ils se taisaient, assis, l'un près de l'autre. Bogdan bourrait sa pipe avec une morose minutie et le bossu ne perdait aucun de ses mouvements.
Alors, tu vas monter au château ?
Je sais où Stocker veut en venir. Je le connais bien, un socialo, un de ces saligots, qui avec leurs discours tordus, ont fait perdre leur gagne-pain à d'honnêtes gens. Lorsque ce mécréant était contremaître à la Tuilerie, un bon emploi pourtant, hein ? N'a-t-il pas excité les ouvriers, jusqu'à ce qu'ils exigent le double salaire et menacent de mettre le feu au château ? Il s'est conduit comme un chien enragé, mordant la main qu'il nourrit, même devant Monsieur Bogdan, il a essayé de dénigrer Monsieur le Comte. Alors là, il est bien tombé. Une belle paire de gifles et un bon coup de pied derrière. Voilà ce que Johann Bogdan répond à ceux qui veulent l'endoctriner. Faire de lui un voyou sans Dieu ni patrie. Guéri, il a été le bossu.
Nerveux, Mihaly ne tenait pas en place, scrutant en coin son voisin. À la fin, il sembla prendre son courage à deux mains.
Ils vont être bien contents de t'avoir là-haut. Tes bras sont complets. Ils ont tellement besoin de monde à la fabrique.
À la Tuilerie ?
La Tuilerie. Penses-tu, pendant la guerre, qui a besoin de tuiles ? Il y a belle lurette que la Tuilerie n'existe plus, mon vieux. Au jour d'aujourd'hui, on fabrique des munitions. Tiens, tu vois ces wagons là-bas ? Plein de douilles d'obus. Tous les samedis, il en part un train entier. Eh oui, tout est bien manigancé. Pendant que l'un part se faire écrabouiller la gueule, l'autre reste pépère chez lui et tapisse son château avec les billets qu'il a gagnés en fabriquant les douilles d'obus. Remarque que moi, je m'en fous.
Triple puce. Est-ce qu'on peut tirer avec des petits pois ? Les munitions, on en a autant besoin que de soldats.
Ça, c'est vrai, ça. Et comme les riches ont le choix entre recevoir des obus et en fabriquer, ils s'autorisent généreusement à en fabriquer. Et toi ? Ils t'autorisent gracieusement à aller te faire trouer la peau. Qu'est-ce qu'on te donne pour ton œil en moins ? 100 couronnes par an ? 150 ? Dommage que ceux qui ont bouffé les corbeaux ne reçoivent pas ça. Mais le patron, pendant ce temps, il se gagne des 1000 et des 100 tous les jours, sans risquer son petit doigt. Moi aussi, je suis patriote, à ce compte-là. D'accord qu'au début, on disait qu'il partirait aussi. C'est vrai qu'il est parti. Puis, 3 semaines après, coucou, me revoilà. Il rapplique, avec des monteurs, des machines et tout le Bataclan. Maintenant, il fait des discours épatants à la mairie, expédie les hommes au casse-pipe, devient le béguin de leurs femmes, se remplit les poches et s'offre les jolies filles de la fabrique.
Le front plissé, Bogdan le laissait débiter son discours. Mais la dernière phrase le frappa comme un coup de poing. Il attendit un peu avant de poser la question qui lui brûlait les lèvres, puis...
Et... Marxa ? Elle aussi, elle était à la fabrique ?
Marxa, si elle y est, elle est contre-maîtresse. Paraît qu'elle n'approche jamais les douilles. Elle approche plutôt Monsieur le Comte.
Déjà, Johan lui sautait à la gorge et l'étreignait comme un forcené. Les yeux exorbités, la face violette, la bouche béante, le bossu tomba en glapissant. Bogdan, alors, ramassa prestement ses affaires et partit à grands pas vers le château. Sans un regard pour le bossu, il s'éloigna, sentant encore la tiédeur du cou de l'autre dans le creux de sa main.
Un homme gémissant sur la route. Qu'est-ce que ça peut bien me faire ? Un plus ou un moins ?
Quand, abruti de fatigue, il était entraîné par le balancement régulier de la colonne en marche, lui était-il jamais arrivé de penser à ces paquets grisâtres qui parsemaient les prés ou bordaient la route, comme les tas de fumier au printemps ? Près de Kielce, ils avaient pataugé dans les cadavres et traversé des champs où, de chaque sillon, des mains terreuses sortaient en griffant l'air, où des faces germaient du sol, comme si les morts remontaient en entendant l'appel du jugement dernier. Ils avaient trébuché sur les cadavres. À la grande joie du peloton, le petit lieutenant de réserve avait été pris de nausée parce qu'ayant mis le pied dans un corps en décomposition, il n'avait plus à retirer sa botte du trou glissant et empesté.
Qu'est-ce qu'on a rigolé de le voir vomir, comme s'il avait trop bu.
La route resplendissait de blancheur sous le chaud soleil de midi. L'horloge du village battit les 12 coups. De la colline, la sirène de la fabrique lui répondit. Quelques volutes de fumée montaient au-dessus des arbres. Bogdan courait bien plus qu'il ne marchait, sentant à peine les gouttes de sueur lui chatouiller la nuque. Pendant un an, il avait bouffé de l'hôpital, des murs, des avalanches de murs, avec l'odeur d'iodoforme et du phénol. Ses poumons respiraient voluptueusement les prés fleuris. Ses semelles battaient la route comme s'il eût marché dans le rang. C'était sa première sortie depuis le jour où il avait été blessé, depuis les marches effrénées de la campagne de Russie. Par moments, il croyait entendre le grondement des canons. Secouer cet animal de bossu l'avait vivifié. Des souvenirs de guerre que la monotonie de l'hôpital avait comme éteint soudain se réveillèrent.
Presque dommage d'avoir lâché Sra. J'aurais pu lui faire son affaire. Je l'aurais vu jeter sa tête à droite et à gauche, agripper le vide avec ses doigts, puis se recroqueviller. Pareil que le petit gros russe aux grands yeux bleus, qu'il premier se présenta devant Saint-Pierre de la part de Johann Bogdan. Jusqu'au dernier frétillement, Bogdan a serré. C'était mon premier russe. Un gars pas mal, au fond, bien moins répugnant que ce cochon de bossu.
Avait suivi une belle série, mais il n'avait étranglé que celui-là. Les autres furent assommés à coups de crosse, embrochés à la baïonnette. Il avait même écrasé sous ses bottes le meurtrier de son meilleur camarade. Non, il n'en avait pas étranglé d'autres. C'est pour ça qu'il se souvenait si bien du petit gros. Les suivants ne furent pas des intimes, juste un fouillis d'uniforme verdâtre. En pensant à ses faits d'armes, un chaos de cris, de jurons, de craquements et de plaintes résonnait en lui.
Combien j'en ai expédié? Dieu seul sait le compte.
Ah! Un deuxième visage lui apparut, celui d'un gaillard long comme une perche.
Je m'en souviens bien. Tassé contre un mur, le russe brandissait son fusil au-dessus de sa tête en montrant les dents, des crocs jaunes de sanglier. Oh, presque la crosse s'abattait. Mais quand on veut se mesurer à Johann Bogdan, faut se lever tôt! Avant que l'autre ait eu le temps de frapper, la baïonnette lui visitait les côtes. Le fer l'avait si bien traversé qu'il s'était fiché dans le mur. J'avais été trop brutal. La baïonnette avait failli casser. Incroyable à quel point c'est facile de transpercer quelqu'un. Du peur. On se figure qu'un homme, c'est plein d'os. Alors, on force trop, et après, bonjour le travail, pour ressortir la fourchette. Non, le truc, c'est de pousser doucement. Puis un bon coup, très franc, et ça entre tout seul. Presque, il faut la retenir, la broche. Surtout, ne pas perdre l'ennemi des yeux. Pas la peine de regarder la baïonnette, ni de chercher où on la plante. Non, avoir sa gueule à l'œil pour réagir au quart de tour, au cas où. Tous les mêmes. Une fois embrochés, ils sont plus tranquilles. Une ferraille dans les tripes, ça calme leur mauvaise humeur. Leur visage s'apaise. Tout devient lisse. Ils font de gros yeux ahuris, genre « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» En général, ils empoignent la baïonnette et se coupent bêtement les doigts avant de tomber. Là, c'est le plus délicat. Faut ressortir la broche au bon moment, quand on les voit arrondir les yeux. Sinon, on risque d'être entraîné et de se recevoir un mauvais coup.
En grimpant vers le château, Bogdan était submergé de souvenirs. Ses jambes avançaient toutes seules, comme celles des chevaux qui sentent l'écurie. Sans même s'apercevoir qu'il était arrivé, il entra par la grille ouverte et foula le gravier des allées.
Le hennissement d'un cheval le rappela au présent. Il tourna la tête. Dans la pénombre de l'écurie, il aperçut la croupe blanche de son cheval préféré. Tout ému, il s'approchait déjà lorsqu'il vit une silhouette féminine de l'autre côté de la grande cour. Elle venait de la Tuilerie, un foulard rouge sur la tête, la taille cambrée. Au balancement provoquant de ses hanches, ses jupes ondulaient comme du blé mouvant. Sous le choc, Johann Bogdan resta pétrifié.
La Marksa. Aucune autre n'a cette allure.
Jetant ses affaires, il s'élança.
Marksa ! Marksa !
La fille se retourna, curieuse, clignant des paupières. À trois pas d'elle, il s'arrêta.
Marksa !
Et il la vit devenir blanche. Blanche comme de la craie, il vit ses yeux effarés aller et venir, de sa joue gauche à sa joue droite. Cachant sa figure dans ses mains, elle se sauva à toutes jambes. Oui, c'était bien ainsi qu'il imaginait son retour depuis que la Julie l'avait laissé passer sans le reconnaître. Mais qu'elle se sauva !
Elle n'a pas besoin de courir. Je violente pas les femmes. Si je lui plais plus, elle n'a qu'à le dire et en prendre un autre. J'en trouverai bien une, moi. Et puis tiens, je vais le lui dire.
Il s'élança à sa poursuite à grandes enjambées, la rejoignit et l'attrapa par la main devant le bâtiment des machines.
Pourquoi tu te sauves? Si tu veux plus de moi, t'as qu'à le dire. Tu crois que je vais te manger?
Elle le regarda fixement. Son corps tremblait tant qu'elle lui fit pitié.
Comme te voilà fait ?
Il rougit de colère.
Mais je t'ai fait écrire que j'ai reçu une grenade à la tête. Tu t'es imaginé que j'allais embellir. Si tu ne veux plus de moi, dis-le. C'est oui ou c'est non. Je te forcerai pas à m'épouser. Allons, oui ou non ?
Maxa ne répondit pas. Il y avait quelque chose dans ce visage, dans cet œil unique, qui la faisait frissonner et lui couper le souffle. Elle baissa les paupières.
Tu n'as pas de situation. Comment veux-tu qu'on se marie ? Demande d'abord à monsieur le comte si...
Ce fut comme si un rideau de feu tombait devant les yeux de Bogdan.
Monsieur le comte ? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, monsieur le comte ?
Il sentit que ce rat de bossu avait dit vrai. Comme une pince brûlante, ses doigts serraient si fort le poignet de Marxa qu'elle cria de douleur.
Monsieur le comte ? Qu'est-ce qu'il vient faire entre toi et moi, monsieur le comte ? Dis, réponds ! Réponds ! Qu'est-ce qu'il a à voir entre nous ?
Marxa se redressa, brusquement ranimée par une étrange assurance. Ses joues reprirent leur couleur, ses yeux leur éclat. Elle était superbe et provocante, ainsi qu'il l'avait toujours connue. Que regardait-elle ainsi derrière lui ? Il la lâcha et se retourna. Ce qu'il avait imaginé s'accomplissait. Monsieur le comte arrivait, sortant du bâtiment des machines, suivi du vieux Toth, le garde-chasse. Marxa s'élança comme une chatte, se précipita vers le comte et se pencha pour lui baiser la main. Tous les trois revenaient vers lui. Bogdan se tendit comme un bélier qui va foncer. Un calme glacé se fit en lui, comme dans la tranchée, quand le clairon sonnait la charge. La main du comte effleura son épaule. Il recula d'un pas.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Le comte se mit à lui parler d'héroïsme, de patrie, d'un tas de trucs qui n'avaient aucun rapport avec Marxa. Les mots pleuvaient sur lui et Bogdan les laissait tomber. Son regard allait du comte à Marxa et de Marxa à Toth. Jusqu'à ce qu'il se fixa sur la poignée nickelée d'un couteau de chasse que le vieux garde portait au côté et qui scintillait au soleil.
Comme une baïonnette.
Et l'idée lui vient d'arracher ce couteau et de le planter jusqu'aux manches dans le corps de cette garce de Marxa. Mais ses hanches arrondies, ses jupes bouffantes, il n'avait pas eu affaire à des femmes là-bas. Il ne s'imaginait pas bien ce que ça ferait de trancher là-dedans. Son regard glissa sur le comte, et Bogdan comprit qu'avec son silence obstiné, il l'avait mis en colère.
Ça y est, il montre les crocs, comme le grand échalarus.
Et il sourit presque à l'idée que monsieur le comte pourrait avoir aussi d'un seul coup le visage tout calmé et roulé de gros yeux interrogateurs. Mais voilà qui parlait de la Marxa. De quoi se mêlait-il ?
Je réglerai mes comptes moi-même avec Marxa, monsieur le comte. Tout ça ne regarde que nous.
Le comte avait toujours ses moustaches intactes et bien effilées. Impeccable.
Pendant que l'un part se faire écrabouiller la gueule, l'autre... A dit le bossu, il n'a peut-être pas le ciboulot aussi creux que ça, l'animal.
Tandis que le comte montait sur ses grands chevaux, Bogdan lorgnait tranquillement la poignée brillante du couteau. Mais de nouveau, l'autre bavait le nom de Marxa.
Désormais, à mon service. Tu sais que je t'aime bien, Bogdan. Si ça te convient, tu auras ta place auprès des chevaux. Et on trouvera quelque chose. Mais je te prie de laisser Marxa tranquille, hein. Pas d'histoire. Si elle veut encore t'épouser, qu'elle t'épouse. Si elle ne veut pas, tu tâcheras de lui ficher la paix. Et que je n'ai pas le malheur d'apprendre que tu lui cherches l'oise. Ou je t'envoie au diable. Ah, que ce soit bien compris.
Au diable ? Monsieur le comte m'enverra au diable ? Qu'il y aille donc lui-même au diable. J'y étais, moi, au diable. Moi, pendant 8 mois, j'y étais, moi, en enfer. Regarde ma tête, monsieur le comte, et tu verras que moi, j'en viens de l'enfer. Ah, ça joue les protecteurs, mais ça se remplit les poches et ça envoie les autres se faire crever. C'est bien commode. Celui qui flemmarde à la maison n'a pas le droit d'envoyer au diable ceux qui y sont déjà allés pour lui.
Les muscles tendus, Il parlait sans se gêner, comme le bossu saucit à l'eau. Soudain, le comte, visage convulsé, se jeta sur lui en brandissant sa cravache. Elle cingla l'air, s'abattit sèchement sur son dos. Mais il ne sentit pas le coup. D'un bond, il saisit le couteau du garde. Déjà, il frappait le comte entre les côtes. Pas de geste arrondi. On aurait pu intercepter son bras. Non, de bas en haut, souplement, d'un coup sec, comme on lui avait appris. Le couteau marchait aussi bien que la baïonnette. Et puis, tout se passa comme d'habitude. Johann Bogdan vit la figure du comte, décomposée par la colère, s'apaiser miraculeusement. Les deux yeux s'arrondirent, le regardèrent avec reproche, comme disant « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Il ne put voir le comte s'écrouler, car un coup formidable l'atteignit à la nuque, comme si une cataracte l'écrasait. Pendant une seconde, il entrevit le visage de Marxa, encadré d'un cercle flamboyant, et, le crâne fondu, il s'effondra sur le corps de son maître qui agonisait par terre.
Avant eux, avant les cupelés, la fleur, l'oiseau et nous étions en liberté. Mais ils sont arrivés et la fleur est en pot et l'oiseau est en cage et nous en numéro. Car ils ont inventé prison et condamné et casier judiciaire et trou dans la serrure et les langues coupées des premières censures. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il n'y avait pas de problème quand poussaient les bananes, même pendant le carême. Mais ils sont arrivés bardés d'intolérance pour chasser en apôtre d'autres intolérances. Car ils ont inventé la chasse aux albigeois, la chasse aux infidèles et la chasse à ceux-là, la chasse aux singes sages qui n'aiment pas chasser. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, l'homme était un prince, la femme une princesse, l'amour une province. Mais ils sont arrivés, le prince est un mendiant, la province se meurt, la princesse s'offend. Car ils ont inventé l'amour qui est un péché, l'amour qui est une affaire, le marché aux pucelles, le droit de courte cuisse et les mères maquerelles. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il y avait paix sur terre, quand pour 10 éléphants, il n'y avait qu'un militaire. Mais ils sont arrivés, et c'est à coups de bâton que la raison d'État a chassé la raison. Car ils ont inventé le fer empalé, et la chambre à gaz, et la chaise électrique, et la bombe au napalm, et la bombe atomique. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes de mon quartier. We'll be right back.
Je brille les armées de toutes les couleurs sous le jeu des mêmes imposteurs qui rêvent des décorations. Je me solde avec du pays, les murs du bon principe illégal. N'a jamais profité à ce que je n'en ai tranché. Aucun pays n'est un dragon, mais l'éthique sang. Aucun pays n'est un dragon, la faire de l'ombre est descendant. Aucun pays n'est un dragon, l'éthique sang. Aucun pays n'est un dragon, la faire de l'ombre est descendant.
À la fin des lectures issues du livre Hommes en guerre d'Andreas Latsko aux éditions Agone. Je remercie encore une fois les animateurs, animatrices et amis de Radio Canu qui ont prêté leur voix et rendu possible ce projet et vous invite à vous procurer ce livre. Retour au programme habituel de Radio Canu, toujours sur le 102.2 à Lyon et sa région et sur le www.radiocanu.org partout ailleurs. Merci pour votre écoute.